des livres plein les oreilles. Salut, c'est Clotilde Say en votre compagnie. C'est l'émission des livres plein les oreilles qui commence. Je vous le dis tout de suite, cette semaine, j'ai vraiment une très, très grande et magnifique nouvelle à vous annoncer tout de suite après le premier entretien. Alors restez là, que vous nous écoutiez en balado ou encore à CKVL ou via Canal M, évidemment, la radio de Vues et Voix. Aujourd'hui, je reçois un personnage qui m'a toujours intriguée. Je vous dirais que c'est une quelqu'une qui n'est tellement pas quelconque. C'est quelqu'un de tellement différent, extraordinaire dans le sens pur du terme. Quelqu'un qui est complètement en dehors des moules et des conventions. Une femme avec qui je n'ai rien, mais alors rien en commun. Et pourtant, je viens de lire « Sois toi et t'es belle » de et par Eve Salvaille. Oui, la femme mannequin, la femme rasée, la femme tatoué sur le crâne de ce dragon qu'on a tous encore en mémoire. Et je me réjouis aujourd'hui de plein de choses. D'abord que le livre soit en audio sur le catalogue de Vues et Voix, mais surtout que cette nouveauté me permette de pouvoir parler un peu avec Eve Salvaille pour que vous la connaissiez mieux, pour que je la connaisse mieux. Et là, c'est toujours par téléphone. Pandémie oblige. Aujourd'hui également, une nouvelle collection d'œuvres intemporelles, lues par des voix d'exception. Ça, c'est chez Audiolib et c'est avec des extraits à la clé de célèbres voix inspirantes qui nous manquent beaucoup. J'entends par là Barbara et Jeanne Moreau, par exemple. Et enfin, deux nouveautés, le classique « L'alchimiste » de Paul Coelho et « Un polar à la norvégienne » signé Jonas Bø. Alors, c'est... Évidemment, on pense à la chanson de Gainsbourg « Sois belle et tais-toi » et à l'expression. On l'écoute.
Le rabier recoule le moineau, pépi, caquette, la poule jacasse, la pie, le chameau blatère et le hibou hue, râle la panthère et craque la grue. Toi, 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 sois belle, tais-toi. L'éléphant barrette la jument et nie, ulule la chouette belle la brebis. Le crapaud coasse, piaule le poulet, le corbeau croasse, cajole le jet. Toi, 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 sois belle, tais-toi. Le cerf brame, l'âne brêle, le lion rugit, cancane la canne, le taureau mugit. Le dindon glouglotte et braille le pan, la caille margotte, siffle le serpent. Toi, 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 sois belle, tais-toi.
Depuis que je suis toute jeune, quelque chose de magique se passe entre l'appareil photo et moi. Comme si, dès que l'objectif pointe vers moi, je le sens et je deviens soudainement un personnage qui bouge avec la lumière, les vêtements, l'environnement pour créer l'image. Tout naturellement, mon corps se place, mon cou s'étire, mes épaules et mon visage se détendent, mon énergie se condense dans mon regard. Mes yeux concentre la lumière et perce l'espace à la recherche de l'objectif. Même si l'appareil photo est loin et que 1000 personnes nous séparent, lui et moi ne formons qu'une entité, comme si je faisais partie de son mécanisme. Lorsque je regarde ma vie avec du recul, je constate que, déjà à cette époque, je semblais vouée au mannequinat, même si ce n'était pas du tout mon rêve à la base. Jamais je n'aurais pensé de gagner ma vie un jour en étant devant l'objectif, parce que, pour moi, c'était un peu comme me brosser les dents, Une action que je fais machinalement sans vraiment y réfléchir. Personne ne se dit « Tiens, je vais maintenant aller vers la gauche et brosser la dent numéro 28 avec un mouvement de rotation à 45 degrés. » L'idée d'être rémunérée pour quelque chose d'aussi banal était complètement ridicule.
Bonjour, Eve Salvaille.
C'est trop drôle, c'est la première fois que je m'entends. Bonjour.
Oui, c'est vrai, c'est la première fois. Parce que nous, généralement, communs des mortels qui avons un rapport à notre corps absolument épouvantable, on ne supporte pas de se voir. Mais vous, est-ce que vous supportez de vous entendre?
Non, je trouve ça insupportable, c'est horrible.
Et ce n'est pas vrai du tout.
Ben, c'est sûr, c'est comme... Dans mon temps, on avait des machines, des answering machines sur nos téléphones, puis on faisait les voix, puis là, on se réécoutait, puis on se trouvait tellement nul.
Tiens, d'ailleurs, première question que je n'avais pas prévue, mais vous, quel rapport, Eve Salvaille, en tant que mannequin, évidemment, je vais vous représenter après, quand vous vous voyez à l'époque, quand vous étiez encore dans le domaine du mannequinat, que vous en faisiez encore beaucoup, et même maintenant, quel regard portiez-vous sur vous? Est-ce que vous vous trouviez belle, tiens?
Non, pas du tout.
C'est vrai?
Non, pas du tout. Mais en fait, il faut se... De un, est-ce qu'on peut se tutoyer, s'il vous plaît?
Ah ben, si tu veux, Eve, écoute, on ne se connaît pas, mais si tu te sens mieux, est-ce qu'on se tutoie? Il n'y a aucun problème, Eve, on va se tutoyer.
Oui, j'aime ça. Merci. C'est difficile parce que en tant que mannequin, on se fait pointer tous nos défauts à longueur de journée parce qu'il faut... souvenir que notre outil de travail, c'est notre corps.
Oui.
Donc, on est toujours trop mince, on est toujours trop grosse, on est toujours trop élancée, on a un bouton ici, puis le bouton qu'on a essayé de cacher avant de partir de chez nous, et nous, toute la journée, on nous regarde de haut en bas, puis on nous nomme tous les défauts physiques qu'on peut avoir, puis même ceux que t'as pas pensé, ils vont te le dire.
Oui.
Fait qu'à un moment donné, on s'attarde plus à ça, puis on devient comme, ben, je suis là de toute façon.
Oh mon Dieu, oui. OK. Vous en arrivez jusque-là. Tu te présentes, Eve Salvaille. Commençons par le début. Donc, on se souvient de toi, évidemment, comme mannequin. Moi, j'ai encore, et je suis sûre que c'est vrai pour tout le monde, ces photographies en noir et blanc de ton crâne avec le dragon. On va en reparler de tout ça. Mais d'abord, tu te présentes au tout début du livre comme une femme très complexe, et pourtant il est dit à plusieurs reprises dans les témoignages à ton sujet que tu es une femme très simple. Elle est où la vérité là-dedans?
je pense que tout le monde se voit un peu complexe parce qu'on a tendance à pas se connaître énormément. On connaît notre amoureux, notre amoureuse, on connaît notre supérieur au travail, on sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, ce qui leur fait plaisir, mais nous-mêmes, on a tendance à skipper, surtout moi, là, je devrais parler en jeu. Moi, j'ai toute ma vie, j'ai skippé qui j'étais. Et à travers l'écriture du livre, c'est là que j'ai découvert qui j'étais.
Et ça a été essentiel pour toi. Il a fallu que tu le... Je suis désolée, le mot qui me vient, c'est que tu le pondes, ce bouquin, que tu l'écrives à tout prix, hein, Eve. C'était essentiel que tu fasses cette démarche, parce que toute ta vie, et ça tu le dis dans ce livre-là, « Sois toi et t'es belle », on va reparler du titre, tu le dis, tu t'es oubliée. Tu sais, ça me fait penser à une chanson de Johnny Hallyday qui dit « j'ai oublié de vivre », mais...
Exact. Moi, je me suis poussée dans un coin très noir, très à l'ombre. Et de toute façon, je n'avais pas le choix dans le métier que je faisais de me taire et d'être belle. Donc,
Mais alors, ce titre-là, Eve, « Sois toi et t'es belle », c'est quand même génial d'avoir paraphrasé cette expression « Sois belle et tais-toi », qui a fait donc même, qui est une chanson de Gainsbourg, qu'on a entendue aussi en début d'émission. Ça vient d'où? Ça vient de qui? Est-ce que c'est toi qui as pensé à ça?
Non, c'était quelque chose qui a été je sais pas, j'écrivais « Sois toi et t'es belle » sur l'Internet, puis ça a popé, un truc comme ça, je pense. C'est tout banal, là, ça n'existait pas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Ça existait déjà.
Mais c'est le fun, c'est beau, par exemple.
Ça dit tout.
Ça dit
tout dans le titre.
Absolument, absolument. Alors, On l'a entendu dans le premier extrait de ton livre que tu as lu, je le rappelle, il va falloir qu'on en parle de cette expérience de lectrice. C'est le mannequinat qui t'a choisi, écris-tu, parce que, on l'a entendu dans cet extrait, toute petite, l'œil de la caméra et tes yeux à toi, là, ça a été comme un coup de foudre. C'était facile entre tes yeux à toi et l'œil de la caméra qui te regarde.
Oui, je trouve ça drôle parce que maintenant, en temps de pandémie, on se retrouve beaucoup devant l'ordinateur, puis je me rends compte que je m'assure toujours d'être sur le bon angle, avec le bon... Même quand je parle à une caméra d'ordinateur, qui est quand même assez banale, mais j'ai toujours eu une connexion vraiment très particulière, puis je peux pas m'en empêcher, je le sens.
Oui.
Et je deviens ce personnage-là qui bouge avec la lumière, qui se place exactement comme elle devrait être placée.
Et qui charme, hein? Ah, j'ai tellement aimé les petites histoires de charme. Quand à un moment donné, je sais plus, t'es au restaurant, puis tu veux... Non, pas au restaurant, t'es dans une boutique, puis tu veux quelque chose, puis tu dis à tes parents, tu vas voir, je vais l'obtenir. Ah oui, un collier. Et finalement, tu charmes le bonhomme, tu charmes le vendeur, tu lui dis rien. Juste avec ton regard émerveillé sur le collier, il te l'offre.
Ah. Mais c'est pour démontrer aussi le pouvoir qu'on a, même sans parler, hein, on a un certain pouvoir d'écoute, puis ça fait en sorte qu'une fois qu'on se tait, les gens, peut-être parce qu'ils sont inconfortables dans le silence, mais les gens ont tendance à s'exprimer un peu. Donc, même sans les paroles, en étant dans un pays lointain, j'étais capable de manipuler les gens. C'est incroyable.
Est-ce encore vrai maintenant?
Non.
Non?
Je pense que de charmer les gens, c'est sûr que c'est un bel outil, mais c'est pas dans le but d'avoir quelque chose de la personne.
Non, je comprends.
Quand on est jeune, c'est sûr, on veut les bonbons, on veut les, on veut le ballon, les choses comme ça. Donc,
bien sûr.
Mais je pense qu'à l'âge adulte, c'est plus pour charmer, pour je sais pas. Je pense que ça vient tout naturel là.
Ève, c'est impossible. Ben oui, je comprends. Ève Salvaille, avant de parler du mannequinat, ça tient 4 ou 5 chapitres. C'est l'importance de tes parents adoptifs et grands-parents.
Oui.
Et je voudrais vraiment qu'on en parle parce que je disais en introduction, à ce moment-là, on ne t'avait pas encore appelé, mais à quel point moi je considère que tu es quelqu'un d'extraordinaire. C'est-à-dire que si on se reporte à l'époque où tu t'es rasé notamment, où tu as fait ce dragon, si on se rapporte à l'époque où donc tu as été enfant abandonné, tu as été reçu, etc., on imagine toujours des parents et des grands-parents qui sont durs, qui sont pas très ouverts à des destinées pour leurs enfants, que ce soit des orphelins qu'ils ont recueillis ou leurs enfants à eux. Ils sont plutôt fermés. Mais toi, non. Toi, tu as eu des parents et des grands-parents, entre autres pour ce dragon, pour ce... Ton père, ton grand-père, ils t'ont tous dit « Go, vas-y, go, ça va être magnifique. »
Ouais, j'ai eu une chance extraordinaire. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude envers ça, puis je me suis pas rendu compte que j'avais ça jusqu'à l'âge adulte, quand j'ai commencé à parler à mes amis, puis qu'eux, ils me racontaient leurs histoires de famille, puis c'était des histoires d'horreur à mes yeux, parce que moi, c'est oui à tout chez nous.
Ah, wow. Ah, wow. Alors, puisqu'on parle de ce crâne rasé, il faut parler de l'importance du Japon, parce que c'est là que tu as trouvé le modèle du dragon. D'ailleurs, tu expliques que quand tu es retourné là-bas, c'était le premier endroit où tu allais, parce que tu avais rencontré des gens qui t'avaient fait aimer le Japon. Et je voudrais qu'on écoute un extrait sur ce crâne rasé, la première femme mannequin à avoir le crâne rasé. On écoute un autre extrait. Tant pis, bouge-toi les oreilles si tu préfères, Eve. C'est ça, c'est la vie.
Papa, la première mannequin rasée avec un tatouage sur la tête, est-ce que c'est plus original? Renaud était ravi. 3 jours plus tard, je me faisais tatouer chez un homme à Tokyo qui n'avait d'ailleurs jamais tatoué une femme, ni une personne blanche, ni un non-yakuza. Un yakuza est un membre d'un groupe du crime organisé au Japon. La procédure a duré 4 heures. Je n'ai jamais eu aussi mal que durant ces heures interminables. Il fallait souvent arrêter parce que ma tête bougeait à cause de mes gémissements et mes pleurs. Je devais tenir le coup pour ne pas avoir une moitié de tatouage sur la tête. J'aurais eu l'air vraiment imbécile et je ne voulais pas ça. Mon père a adoré. Il était tellement fier que, à mon retour, il avait invité des amis à la maison pour leur faire voir mon tatouage. Il faut se rappeler qu'en 1992, les tatouages n'existaient en majorité que pour les prisonniers, les gangs de rue, les motards ou la mafia. Ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. Déjà, avoir un tatouage n'était pas accepté ni commun pour une femme, alors sur la tête, ouf! Mon père était fier parce que c'était, et ça demeure, une œuvre d'art et moi, j'étais le canevas.
Ah, oh, wow! C'est bio! Je t'assure que c'est beau, Ève! C'est très, très bien, Ève Salvaille! C'est très bien lu! Mais d'ailleurs, tu as tous les talents. Tes dessins qui émaillent aussi les pages de ton livre sont... C'est, oh, je ne sais pas, là, il y en a un auquel je pense, parce qu'à un moment donné, tu as souffert de la tuberculose et il y a un dessin où on voit ta taille qui est enserrée par une corde et finalement, tout le bas du corps n'existe plus. On ne voit que le bas de la corde. En tout cas, waouh, c'était Jean-Paul Gaultier qui disait que tout en elle est beau, donc tout en toi est beau. D'ailleurs, toi, tu dis la même chose de lui, hein, de Gaultier.
Oh, je l'adore. Vraiment, là, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour lui.
Ah oui, hein? Ah oui.
Et de gratitude aussi, parce que je ne serais pas où je suis maintenant, puis toutes ces opportunités-là, c'est lui qui a eu les couilles de m'engager. Ouais. En tant que mannequin, quand c'était vraiment pas populaire à ce moment-là, les femmes rasées avaient tout tatoué sur la tête.
D'ailleurs, tu avais perdu tes agences qui voulaient plus te représenter. Tu étais barman, du coup, ici au Foufoune électrique. Wow!
Oui, j'habitais dans une voiture. Ça allait pas bien, là.
Non, non, c'est ça. Et le glamour, parce que évidemment nous quand on pense mannequin, on pense glamour. Ok, alors ça c'est certain que tu as rencontré ça, grands hôtels, champagne, les célébrités, etc., etc. Très bien. Mais tu consacres aussi un chapitre à la difficulté de faire ce métier-là, premièrement, et aux dépendances auxquelles tu as eu à faire face. Ça commençait dans le mannequinat, parce que tu dis dans les années 90, on pouvait difficilement ne pas boire et ne pas prendre de drogue quand on était mannequin.
Ben, c'était mal vu. C'était mal vu de pas boire, pas prendre de drogue. Puis j'ai perdu certaines de mes jobs parce que je faisais pas la drogue qu'eux, ils voulaient que je fasse.
C'est fou.
C'est fou. C'était l'ère du... c'était quoi le heroin chic qu'ils appelaient. Mm-hmm. Alors, c'était chic de faire de l'héroïne. Incroyable.
Oh là 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 là. Sauf que toi, c'est devenu à un moment donné un problème grave. Il a fallu que tu t'en sortes. Et tu t'en es sortie, hein?
Ben oui, c'est encore beaucoup de gratitude pour ça, parce que c'est dur de demander de l'aide en tant qu'elle salvaille. Tu sais, après avoir vécu tout ça, puis après avoir accompli tellement de choses, à un moment donné, de se rendre compte que moi, je suis incapable de me battre contre une bouteille de vodka, c'est quand même insignifiant, une bouteille de vodka. Mais moi, je perds la bataille tout de suite.
Je comprends. Je comprends. Puis on sait que malheureusement, quand on connaît le problème, même si on n'a pas bu depuis longtemps, on prétend que c'est toujours là, quoi. Ce sera toujours présent. Hein.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, ta vie, Ève Salvaille, parce que tu as touché à la chanson, tu as touché au cinéma, tu as toi-même dessiné. Tu as donné ton nom pour un paquet de causes. À quoi ressemble ta vie, Ève Salvaille, aujourd'hui?
Merveilleuse.
C'est vrai?
Wow, c'est tellement extraordinaire. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire, les synchronicités de la vie, puis qu'on s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'on porte attention à ça, mais tellement de belles choses qui sont arrivées, comme d'être confinée complètement ici au Québec pendant que j'écrivais le livre. Ça m'a forcé à écrire un livre.
Ben oui.
J'aurais été vraiment plus paresseuse si on avait pu sortir, c'était le printemps, aller prendre un petit verre avec un verre non alcoolisé, mais un petit verre avec mes amis, puis un petit souper, puis un petit ci, puis un petit ça. Ouais. J'écrirai demain, puis j'écrirai après-demain, mais là, j'ai vraiment...
Ça t'a obligé, hein? Mais il y en a beaucoup, effectivement, qui disent ça, et c'est tant mieux, vraiment, parce que lire ton livre, je le disais aussi, tu ne l'as pas entendu en début de cette émission, mais... Tout nous sépare, Ève, dans le sens où moi, la dernière chose que j'aurais pu faire au monde, c'est du mannequinat. J'ai touché à tout le reste, mais ça vraiment, alors c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire, j'avais pas le corps pour ça. Et moi, pour moi, t'étais comme une intouchable. Et on s'aperçoit que les gens intouchables comme ça, toi ou d'autres, on lit leurs bouquins, Puis on s'aperçoit que, par exemple, chez Ève Salvaille, il y a la petite fille de Matane qui revient tout le temps dans les pages de son livre, qui revient tout le temps sur les scènes où elle a défilé avec les plus grandes de ce monde, Versace et compagnie. Elle n'a jamais été loin, cette petite fille-là. La petite Ève de Matane, c'est comme ça que tu l'appelles.
Oui, la petite Ève de Matane.
Et on a envie, dans ces cas-là, de la prendre dans les bras, la petite Ève de Matane, puis dire, ben, sais-tu, j'avais vraiment l'impression que non, qu'on n'aura rien à se dire. Puis je ne sais pas, il me semble que si un jour on allait prendre une bière sans alcool ensemble, on aurait plein de trucs à se raconter.
C'est bien dit. Parce que je suis aussi vulnérable que toi.
Ben oui.
Je veux dire, on a des métiers différents, mais on a toute cette vulnérabilité à quelque part.
Exactement, exactement. Écoute, Ève, on va se quitter. Alors, je voudrais rappeler aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment que le livre existe sur papier, mais aussi en livre audio. Il a été lu par toi-même dans les studios de Vues et Voix, et c'est au catalogue de Vues et Voix notamment qu'on peut retrouver « Sois toi et t'es belle », ce magnifique titre signé Ève Salvaille autour de sa vie, ben, pas seulement de mannequin, de sa vie en général. Je voudrais qu'on se laisse, Ève, tu vas peut-être pas l'écouter parce que je sais qu'il faut que tu partes vite, mais j'ai choisi la chanson de Kiddy Lang, Miss Chatelaine. Que tu connais, ben oui, tu sais, que cette, parce qu'elle, qui est bon, cette femme à la voix magique, homosexuelle, qui à un moment donné a fait la une du Chatelaine, puis ils l'ont tellement maquillée, remaquillée, qu'elle s'est plus reconnue, quoi. Parce qu'elle, elle vit absolument sans maquillage, sans rien, et donc elle avait composé cette chanson-là, Miss Chatelaine, et j'ai pensé que c'était une bonne tune pour qu'on se sépare.
Ah, c'est fantastique, merci.
De rien, Ève. Prends soin de toi et merci pour tout ce que tu fais et puis merci pour ce bouquin.
Merci.
Bonne fin de journée, Ève.
Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become this chatelaine. Just a smile, just a smile. Hold me captive, just a shine.
Dylan, et c'est sur Kid Dylan, d'ailleurs, je devrais dire, c'est sur Canal M ou sur CKVL ou encore en balado si vous écoutez l'émission des livres plein les oreilles. Et je vous le disais au début, au tout début, j'ai vraiment une grande nouvelle à vous annoncer. On en est encore tous tellement surpris ici. Il nous arrive une grande aventure et cela concerne Vues et Voix et l'équipe de Vues et Voix. Figurez-vous que les studios de Vues et Voix vont à nouveau déménager. Nous partons, tenez-vous bien, parce que nous, il a fallu qu'on s'assoie quand on nous l'a appris, nous partons nous installer à Paris. Oui, à Paris, Paris-France, ce ne sera pas pour cette année, ça va se faire dès l'an prochain. Et non seulement on part à Paris, mais on part avec nos 13 cabines d'enregistrement et on part avec toute l'équipe de professionnels aguerris qui est dans l'aventure de Vues et Voix, évidemment tous ceux qui le pourront et on espère bien que eh bien, tout le monde le pourra, mais bon, c'est peut-être pas toujours facile avec les familles et tout ça, mais on va tout faire en sorte pour que toute l'équipe puisse nous suivre dans la vieille capitale. Pourquoi ? Eh bien, parce que notre expertise dans le domaine du livre audio en a fait saliver plus d'un à Paris. À commencer par des comédiens et des éditeurs aussi français qui voudraient, et là c'est encore, ça c'est la deuxième bonne nouvelle, qui voudraient que toutes les parutions automnales, que ce soit en France, que ce soit ici, partout, soient disponibles en version audio et accessibles à tous. En plus du format commercial, ce sera aussi en format gratuit pour les personnes à besoins visuels ou physiologiques particuliers. Vous comprenez pourquoi on est énervé là ? Vous rendez-vous compte, le nombre de livres audio, ça va être exponentiel. Là, vous entendez la petite musique, ça veut dire que ma première demi-heure s'achève. Je vous en reparle dès le début, en début de seconde partie. Restez là, Vues et Voix à Paris. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Rebonjour mes amis, c'est une Clotilde Saï vraiment très fébrile qui ouvre son micro de cette seconde partie de l'émission des livres plein les oreilles. Si vous étiez à l'écoute de la première demi-heure avec la formidable Eve Salvaille, eh bien vous avez entendu cette nouvelle que je vous ai apprise. Quelle est-elle ? Eh bien, je vous en reparle tout de suite. C'est que devant la montée astronomique du chiffre d'affaires du livre audio, merci la pandémie, hein, ça n'a pas été mal pour tout le monde, eh bien, pour nous, donc, cette Covid a été une véritable bénédiction, je veux dire pour le milieu du livre audio en général. C'est pour cela que la France nous fait, écoutez, un véritable pont d'or en nous demandant d'exporter notre savoir-faire en dehors de nos frontières. Donc, nous partons pour Paris, plus précisément dans le 8e arrondissement, car oui, nous savons, nous connaissons déjà, nous savons où nous allons prendre possession de locaux à Paris. Pour ceux qui connaissent un petit peu la capitale, on va être installé à la place de l'actuel drugstore, comme disent les Parisiens, c'est-à-dire un magasin où on trouve de tout, sauf de la pharmacie, qui se trouve, ben, si vous remontez les Champs-Élysées, que vous avez l'Arc de Triomphe devant vous, le drugstore est un peu avant l'Arc de Triomphe sur la gauche. C'est inespéré, bien sûr. Je ne vous demande pas de... Surtout, plutôt, je vais vous demander de ne pas hurler. Parce que nous quittons le Québec, parce que c'est un mal pour un bien, mes amis, dans la mesure où nous avons négocié que les nouvelles parutions québécoises soient toutes enregistrées également à Paris avec des voix québécoises. Autrement dit, vous l'avez compris, si le livre audio se vend mieux, l'argent rentre plus, les budgets explosent et on peut sans difficulté faire venir les auteurs et les narrateurs de chez nous, du Québec donc, en France. Alors là, vous me direz, et avec la Covid, vous faites comment ? Vous avez bien raison, on rêve en couleur, mais n'oublions pas qu'au train où ça va, d'ici un an quand même, on sera tous vaccinés, ici comme en France, et donc on pourra, c'est ce qu'on espère, librement voyager. Et de toute manière, vous imaginez bien qu'un déménagement comme celui-ci, ça ne se fait pas en quelques semaines, donc ça nous laisse un an pour nous préparer. C'est pas incroyable comme nouvelle, ça ? Hé, hey, Paris ! Nous voilà.
Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Toujours pareil, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris.
Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris.
Poisson d'avril. Et en plus, je rigole parce que la première personne qui a reçu ma feuille de route et qui s'est bien fait avoir, c'est Jean-Sébastien Laliberté qui travaille avec moi. Et quand il a lu ça, quand il a vu ça sur la feuille de route, il est ben voyant donc. Évidemment, sur l'autre page, il a bien vu écrit en gros « Poisson d'avril ». Mais quand même, hein, quel beau projet. Avoir nos studios quelque part sur les Champs-Élysées et faire lire toutes les nouveautés, je dis bien tout ce qui sort dans le milieu littéraire francophone, que ce soit en France, en Afrique, en Suisse, en Belgique et bien sûr au Québec, où là on ferait venir les Québécois, les artisans d'ici, les comédiennes et comédiens québécois qui feraient le voyage pour enregistrer les livres à Paname. Waouh! Eh bien, c'est un poisson d'avril. Bon, remarquez, c'est pas grave, on va continuer, nous, à travailler d'ici. Vous savez qu'en mine de rien, en l'espace de quoi, 2 ans et demi, 3 ans, on chiffre quoi, 400 bouquins qu'on a enregistrés déjà? C'est quelque chose, je me demande même si c'est pas encore plus. Je sais qu'en ce moment, au moment où je vous parle, il y a 75 productions de livres audio qui sont en route ici, chez nous, via Vues et Voix au Québec. C'est vraiment fantastique. En ce qui concerne l'origine du poisson d'avril, écoutez, il y a plusieurs on dit, hein, il y a plein de on dit. Mais parmi les explications possibles et, je dois dire, les plus crédibles, la création, il y a celle, voilà, qui est liée au roi de France, qui est Charles IX, qui, au cours d'un voyage à travers, bon, plusieurs parties de son royaume, le monarque a fait un constat, puis un constat qui le trouble quand il s'aperçoit que tous les diocèses du pays ne commencent pas l'année en même temps. À Lyon, par exemple, elle débutait à Noël. Alors que dans d'autres villes, on est toujours sur le territoire français, c'était le 1er mars ou le 25 mars. Enfin bref, c'était un petit peu n'importe quoi. Alors le roi a décidé de mettre un peu d'ordre dans tout ça en rédigeant en 1564 l'édit du Roussillon, d'ailleurs ce serait plutôt l'édit de Roussillon, qui est une loi qui a fait débuter l'année partout en France le 1er janvier. Un point, c'est tout, et ce sera vrai pour tout le monde. Mais malheureusement, il y a certains sujets qui ont résisté et qui s'offraient des faux cadeaux de Nouvel An le 1er avril, qui était la date que eux reconnaissaient comme étant le début de l'année. Alors peu à peu, les faux cadeaux seraient devenus des canulars et des poissons qu'on se colle dans le dos. C'est une des expressions. C'est une des explications, mais il peut y en avoir d'autres aussi. Mais je dois dire que celle-ci, je l'aime beaucoup, tout comme j'aime beaucoup cette chanson de Marc Derry qui s'appelle « Poisson d'avril ».
Une once de pâte, du stuff pour les mouches, des mouches pis une canne à mouche. Ma ligne à lancer léger, ma tente à une place, mon flot tube pis démené. Ouais, j'pense bien que j'ai tout, oh y'a juste la bouffe. J'm'arrête au dépanneur sur le bord de la route. Laissez un message numérique ou vocal après le bip. On va pogner la truie. La belle petite. J'y passe à travers, j'suis pas mal fier. J'ai toujours eu de la misère avec l'hiver. J'étais plus du monde, j'm'endurais plus. J'pense que j'étais sur le bord de la crise de nerfs. Ok, salut ma blonde, j'm'en vais faire le vide. J'ai besoin d'être tout seul avec mes bébites. Suspendu tout seul à mon petit morceau de graphite. J'm'en vais pogner de la truite. Salut ma blonde. Mais si tu veux, en revenant, je te fais un kid. Oh, dit-il d'un air intrépide et d'un ton fromager. Petit brin de paille dans la bouche. Ma ligne à lancer léger, mes bottes, mon casque avec une drôle piquée sur le côté. Non, je veux rien savoir, j'ai foule de verre, des beaux gros verres de grains biologiques. Laissez un message numérique ou vocal après le bip. La dernière fin de semaine d'avril. C'est le temps de la truite. Oh, la belle petite.
Bon, après ce poisson d'avril et celui de Marc Derry, retour à la réalité avec une nouvelle série proposée par Audiolib. On parle toujours de livres audio, bien sûr, vous êtes toujours à l'émission des livres plein les oreilles. Il s'agit d'une collection d'œuvres intemporelles lues par des voix d'exception. Par exemple, « Lettre à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke, lue par... Avant de vous dire son nom, lu par quelqu'un qui a déclaré les lettres que Rainer Maria Rilke adressait au jeune poète Franz Capus, me sont apparues comme une eau claire. J'ai plongé dans cette lecture sans reprendre mon souffle. Ma rencontre avec ces lettres reste un choc, une émotion au bord des larmes, signée Barbara. Et c'est elle, à l'époque, qui avait enregistré ce livre. En 1903, hein, souvenons-nous, Rilke répond à Franz Capus, qui était un jeune homme de 20 ans, élève d'une école militaire, qui lui a envoyé ses premiers essais poétiques et qui veut à tout prix avoir l'avis de ce Rilke dont il aime tant l'écriture. Et voilà ce que Rilke, entre autres, lui répond, lu par Barbara.
Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous inquiétez si certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Vous regardez vers le dehors et c'est là précisément ce que vous devriez ne pas faire aujourd'hui. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'est qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même. Cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire. Examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur. Reconnaissez-le face à vous-même. Vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire? Ceci surtout. Demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, dois-je écrire? Creusez en vous-même vers une réponse profonde. Et si cette réponse devait être affirmative, s'il vous est permis d'aller à la rencontre de cette question sérieuse avec un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusqu'en son heure la plus indifférente, la plus infime, doit se faire signe et témoignage pour cette poussée. Approchez-vous alors de la nature. Essayez alors, comme un premier homme, de dire ce que vous voyez, vivez, aimez, perdez.
Voix de Barbara dans ses derniers moments, il y en avait beaucoup qui ne l'aimaient plus, cette voix-là. Moi, je l'aimais plus encore qu'avant, avec tout ce vécu sur les cordes vocales. En tout cas, revenons, si vous le voulez bien, à ces intemporels, à cette littérature intemporelle présentée par Audiolib. À chaque fois, je fais l'erreur, il va falloir que je me corrige un de ces jours. Donc, par Audiolib, c'est tellement proche comme sonorité, ça n'a pas de bon sens. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir, voyez-vous? Du tout, du tout, du tout. Donc, 30 ans plus tard, entre autres, eh bien, Audiolib nous présente le prix Goncourt 1990, qui s'appelle Les Chants d'honneur. C'est devenu un classique de la littérature française contemporaine. Et il faut dire qu'il nettoie hein, l'enregistrement. Et ça, c'est un enregistrement vraiment historique que je vais vous faire entendre, du moins un extrait, parce qu'il est presque complètement introuvable, presque, puisqu'ils en ont trouvé, ils l'ont restauré, ils l'ont dépoussiéré, ils l'ont remixé, ce chef-d'œuvre du patrimoine de Jean Rouault, lu ici par une personne qui avait choisi de l'enregistrer. c'est Jeanne Moreau. Alors voici un extrait de Les Chants d'honneur de Jean Rouault, disponible en audio chez Audiolib.
Au vrai, chacun savait que la lenteur du véhicule ne leur faisait pas courir grand risque, mais les interminables enjambements de lignes jaunes, les errances sur la voie de gauche, les bordures mordues sur lesquelles les roues patinaient, entraînant la deux chevaux dans un pénible mouvement de ressort, les croisements périlleux, on en descendait verdâtre comme d'un train fantôme. Pour les manœuvres délicates, inutile de proposer ses services en jouant les sémaphores. On avait beau le mettre en garde, le prévenir en rapprochant les mains l'une vers l'autre, que l'obstacle à l'arrière n'était plus qu'à quelques centimètres maintenant, il vous regardait avec lassitude à travers la fumée de sa cigarette et attendait calmement que ses pare-chocs le lui signalent. À ce jeu, la carrosserie était abîmée de partout, les ailes compressées, les portières faussées. La voiture y avait gagné le surnom de Bobos. Si grand-père l'a pris jamais, il faisait montre de suffisamment d'indifférence pour ne pas s'en émouvoir, et il est vraisemblable que ses pensées nous avaient catalogué une fois pour toutes, petit morveux ou ce genre. Peut-être s'en moquait-il vraiment.
Ah, cette voix, la voix de Jeanne Moreau, lisant un extrême, en fait le livre entier de Les Chants d'honneur de Jean Rouault, prix Goncourt en 1990. Je voudrais préciser qu'on entend également l'auteur Jean Rouault dans cet enregistrement-là. Il y a notamment une entrevue qui est faite, je ne sais pas par qui, ça n'était pas spécifié, sur Audiolib, qui nous présente ces intemporels de la littérature lus par des voix d'exception. Comme toujours, j'ai des nouveautés à vous proposer. J'ai d'abord un bon polar bien saignant qui est signé Joe Nesbø. D'ailleurs, on devrait apparemment dire Joe Nesbø. Il est norvégien. C'est une parution de janvier 2021 dans la collection Écoutez lire de chez Gallimard. Ça s'appelle Rouge-Gorge. L'inspecteur Harry Hall est muté à la surveillance des milieux néo-nazis. Une seule consigne, faire le mort. Mais Hall le voudrait qu'il n'y parviendrait pas. Surtout quand il découvre qu'un fusil utilisé par le terrorisme international est importé sur le sol norvégien. Surtout si sa meilleure amie se retrouve mêlée à l'affaire. Alors, son enquête va l'amener à se plonger dans le passé d'un groupe de néo-nazis norvégiens ayant pris part à la Seconde Guerre mondiale. Que s'est-il réellement produit ? Il y a plus de 50 ans, dans les tranchées de Leningrad, à mesure qu'il explore leur histoire, sa conviction grandit. L'un d'entre eux prépare un attentat. C'est lu par Dominique Collignon-Morin.
Finalement, il s'arma de courage, vola jusqu'à lui et retira de son bec une épine qui avait pénétré dans le front du crucifié. Mais ce faisant, une goutte de sang du crucifié tomba sur la gorge de l'oiseau. Elle tomba rapidement et s'étala en colorant les petites plumes fragiles. Le crucifié entr'ouvrit alors la bouche et murmura à l'oiseau « Pour ta miséricorde, reçois maintenant ce à quoi ta famille a toujours aspiré depuis la création du monde. » Selma Lagerlöf, Légende du Christ. Traduction Aude Girard. 1er novembre 1999. Un oiseau gris passa dans le champ de vision de Harry, qui tambourinait sur le volant. Temps ralenti. La veille au soir, quelqu'un à la télé avait parlé du temps ralenti. C'en était un exemple. Comme le 24 décembre au soir lorsqu'on attend le Père Noël ou sur la chaise électrique avant la décharge.
Alors, Rouge Gorge de Joe Nesbø, lu par Dominique Collignon-Morin, c'est Écoutez Lire qui a produit ce livre audio. Un classique maintenant, un classique que l'on connaît bien mais qui vient de ressortir en livre audio. C'est une nouvelle parution, une nouvelle lecture. C'est sorti le 11 février, encore chez Écoutez Lire. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, lu par Féodor Atkin. Vous vous souvenez peut-être pour l'avoir lu, ou si vous ne vous en souvenez pas, je vais vous dire qu'on y parle ici de Santiago, ce jeune berger andalou qui part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Et lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. C'est raconté ici par cette voix sublime qu'est celle de Féodor Atkin, qui met beaucoup de passion dans ce merveilleux récit philosophique. On l'écoute dans une magnifique histoire, extrait de L'Alchimiste de Paulo Coelho.
Le lendemain, le jeune berger retrouva le vieil homme à midi. Il amenait avec lui 6 moutons.
« Je suis surpris, » dit-il.
« Mon ami m'a acheté immédiatement le troupeau. Il avait toute sa vie rêvé d'être berger, m'a-t-il dit. Et donc, c'était bon signe.
« Il en va toujours ainsi, » dit le vieillard. « Nous appelons cela le principe favorable. Si tu joues aux cartes pour la première fois, tu vas gagner, à coup sûr, la chance du débutant. »«
Et pourquoi cela ?»«
Parce que la vie veut que tu vives ta légende personnelle. »
Puis il se mit à examiner les 6 moutons et s'aperçut que l'un d'eux boitait. Le garçon lui expliqua que c'était sans importance car c'était la bête la plus intelligente et qu'elle donnait beaucoup de laine.
« Où se trouve le trésor ? » demanda-t-il.
« Le trésor est en Égypte, près des pyramides. »
Il eut un sursaut. La vieille lui avait dit la même chose, mais elle ne s'était pas fait payer.
« Pour arriver jusqu'au trésor, il faudra que tu sois attentif aux signes. » « Dieu a écrit dans le monde le chemin que chacun de nous doit suivre. Il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit pour toi. »
Féodor Atkin, c'est quelque chose d'avoir autant de grave, autant d'impression qu'il est dans les sous-sols d'une cathédrale, creusé dans la pierre. C'est vraiment un grand comédien français, Féodor Atkin. Mais voilà, c'est la fin de l'émission des Livres pleins les oreilles. « Voilà pour cette émission. Je voudrais remercier Eve Salvay qui, bien qu'elle ne se retrouve plus dans des défilés célèbres de mode, est une femme très occupée. Alors, merci à Eve de nous avoir accordé un peu de son temps pour nous parler de son livre, livre qui existe maintenant en version audio chez Vues et Voix. Ça s'appelle « Sois toi et t'es belle ». C'était dans la première partie de l'émission. On a failli partir pour Paris, mais ce n'était qu'un poisson d'avril. Et puis, à l'instant, eh bien, bravo à Audiolib d'avoir remis au goût du jour. Et ce ne sont que les premiers livres intemporels lus par des voix d'exception. C'est Clotilde Seil qui vous a présenté des livres plein les oreilles. Je vous souhaite une belle semaine, plein de beaux livres à vous glisser entre ces oreilles-là. Et à la semaine prochaine. Merci Jean-Sébastien Laliberté. Salut.